Je vais vous présenter, mais tout le monde l'a déjà beaucoup entendu et le connaît par ailleurs, Jean-Louis Fabiani de l'École des études en sciences sociales et de Central European University, qui va donc nous parler, pour prolonger la postérité de Durkheim, de Bourdieu et Durkheim.
Merci beaucoup, Pierre-Michel. Merci à Antoine Compagnon, Céline Surprenant et à Pierre-Michel Menguer de m'avoir invité. Aujourd'hui, c'est plus qu'une politesse académique. J'ai publié un petit livre sur Bourdieu il y a 3 ans, où je me demandais si on pouvait parler sereinement de Pierre Bourdieu, comme Pierre de Molnar l'a fait à propos de Boudon. Eh bien, la réponse est non. Et donc, je vois de la part de votre institution un petit signe amical qui me fait chaud au cœur. Bourdieu fut-il durkheimien ? Poser la question de cette façon, c'est évidemment s'exposer à des malentendus, et principalement celui qu'engendre une conception continuiste de l'histoire des sciences sociales, qui voit dans la trajectoire particulière de la sociologie en France, et je reparlerai de la question de la nation sociologique, l'expression d'une forme holiste de la proposition épistémologique qui la soutient. C'est la raison pour laquelle Raymond Boudon s'est souvent proclamé « un-French ». Qu'elle s'exprime sous la forme de la société éternelle dans laquelle Harold Garfinkel voyait l'apport majeur de Durkheim, ou d'une théorie générale des champs que Bourdieu a cherché à établir au cours d'une quête ininterrompue, c'est la relation au concept de totalité qui semble constituer le fil conducteur de l'entreprise sociologique, au moins entendu de cette façon. L'entreprise sociologique y est qualifiée régulièrement de pratique scientifique comme les autres, dont l'avènement tardif est d'une certaine façon toujours à venir, et l'effet des obstacles sociaux qu'elle rencontre sur son chemin. Les règles de la méthode sociologique, 1895, et le métier de sociologue, première édition, 1968, font état de ces difficultés propres à la sociologie. La nécessité de la lutte contre les prénotions qui saturent le monde social n'est guère éloignée de la bataille sans merci que mènent les auteurs du Manifeste pour une nouvelle sociologie, et que j'ai appelé naguère, si ce n'est jadis, une épistémologie de combat. Et nous avons évoqué cette notion de combat dans la dimension combattante de Durkheim. Si l'on se fie aux apparences, on pourrait à ce point affirmer que l'entreprise des auteurs du métier de sociologue se situe explicitement dans la postérité de Durkheim, figure tutélaire convoquée pour refaire de la sociologie un vrai métier, « a craft », comme le dit très bien la traduction anglaise, un ensemble de savoir-faire, de préceptes, de pratiques et d'outils qui se transmettent et s'affinent au cours du temps. Remettre le métier sur le métier, c'est le programme d'une rénovation scientifique qui s'appuie pour une part sur la revendication originelle de l'auteur du suicide. Il est possible de rendre compte scientifiquement des faits sociaux contre la foule, à l'époque de Durkheim, des amateurs ou des fumistes. Mutatis mutandis, Bourdieu et Durkheim se trouvent et décrivent leur situation comme une situation que j'appellerais obsidionale. Une multitude de sociologues autoproclamés viennent concurrencer les vrais savants au point qu'une partie de l'activité de ces derniers consiste à lutter contre les imposteurs, terme utilisé par Éric Briand. La différence entre les deux situations est évidente. Au cours des années 60, les faux sociologues ont fait leur place à l'intérieur de l'université, 58, licence de sociologie, ce qui conduira Bourdieu à qualifier très souvent la sociologie de discipline refuge, je dirais une sorte d'asile de nuit pour intellectuels à la dérive. Il y a plus, je crois. L'histoire de la sociologie est discontinue. Elle est d'autant plus discontinue que la discipline a connu en France une institutionnalisation particulièrement tardive, Éric Briand en a parlé, et que l'héritage durkheimien, privé d'une véritable assise universitaire, le Collège de France ne suffit pas, s'est progressivement effacé et n'a plus joué de rôle déterminant, de rôle vecteur. Alors, Andrew Abbott, dont nous avons parlé à l'instant, nous a mis en garde à propos du cas pourtant paradigmatique du département de sociologie de Chicago, dans Department and Discipline, 1999, il nous dit, je cite, « La continuité des noms ne saurait nous conduire à croire à la continuité des choses nommées. Chaque fois que nous regardons la scène à la lumière des projecteurs de la recherche synchronique, nous voyons apparaître des configurations différentes. Nous sommes bien d'accord. Le terme processuel fait aujourd'hui l'objet d'un consensus qui n'est pas toujours le signe de la clarté, mais je crois que dans ma deuxième partie, c'est au processus de réappropriation de Durkheim par Bourdieu que je m'attacherai, en insistant sur sa dimension contextuelle et stratégique. Au moment où Bourdieu entre dans la carrière, la figure de Durkheim est largement démonétisée, en philosophie comme en sociologie. Il s'emploiera à reconstruire un Durkheim, que je dirais à sa main, peu avant que Raymond Boudon, son opposant exemplaire, ne s'attache à une opération du même ordre, quoique sur des bases épistémologiques tout à fait différentes. Il n'est pas indifférent ou anecdotique de rappeler que le seul endroit où Bourdelien et Boudonien se rencontraient dans les années 70 était le cercle d'études durkheimiennes, le projet franco-britannique PAREX, où je fis d'ailleurs mon premier exposé après 2 jours sans sommeil parce que plusieurs Boudoniens allaient m'écouter. Et ce projet franco-britannique PAREX voyait des Boudoniens et des Bourdeliens dialoguer autour de Durkheim, plutôt bien d'ailleurs, loin du boulevard Raspail. Avant de m'intéresser, donc, dans cette deuxième partie, à la dissymétrie entre Durkheim et Bourdieu, qu'induit la logique de réappropriation sélective du second, je voudrais revenir, reprenant d'anciens travaux, je ne le cache pas, dans un premier moment, sur l'existence de ce que j'ai appelé, avant même d'avoir eu accès à la notion de lignage d'Andrew Abbott, la tradition latente, et qui pourrait être une forme de lignage. Donc, première partie, la tradition latente. Durkheim rappelait, après avoir signalé l'absence totale de programme empirique qui l'empêchait d'être une science, que l'œuvre de Comte constituait la meilleure des propédeutiques à la sociologie. Je cite Durkheim, « Quelques réserves qu'appelle la doctrine de Comte, un sentiment très vif de ce qu'est la réalité sociale y est partout présent. Il n'est pas de meilleure initiation à l'étude de la sociologie. » Fin de citation. Si l'œuvre de Comte est, selon Durkheim, sans lendemain immédiat, s'il s'agit en quelque sorte d'une science sans contribution, d'une science sans science, d'un discours qui ne peut sortir des généralités philosophiques pourfendues toute sa vie par Durkheim, on peut dire néanmoins, si l'on croit son promoteur, que tous les travaux de l'école durkheimienne, je le cite à nouveau, dérivent de l'œuvre de Comte. Ce sont des moments différents d'une même évolution. Fin de citation. Durkheim inscrit lui-même la filiation qu'il observe dans un cadre culturel national, la sociologie française. Pour l'auteur des règles, je le rappelle, la France constitue le territoire par excellence du développement de la sociologie. Ce thème n'apparaît pas seulement dans les écrits de circonstances publiés à l'occasion de la Première Guerre mondiale. En effet, la situation nationale est toujours doublement caractérisée à la fois par l'opacité des problèmes sociaux qui s'y développent et par la puissance du rationalisme comme tradition intellectuelle qui permet de lever cette opacité. Je le cite à nouveau, « Une sociologie scientifique suppose, face à des phénomènes obscurs à expliquer, à la fois la conscience qu'ils sont assez complexes pour que le sociologue ne se laisse pas séduire par des explications trop faciles et trop claires, et un état d'esprit rationaliste qui permette de ne pas désespérer d'introduire de la clarté dans une telle obscurité. » Et c'est pour cela que nous estimons que la France se trouve dans les conditions les plus favorables pour contribuer au progrès de la sociologie. Fin de citation. C'est en 1895 que Durkheim affirme cela. Cette déclaration, je la rapproche de manière sauvage mais raisonnée de ce que Bourdieu dira dans la très intéressante préface à l'édition états-unienne de La Distinction, publiée 5 ans après l'original aux presses de Harvard et qui va faire basculer Bourdieu dans la sociologie globalisée. Bourdieu se pose la question, puisque vous vous souvenez des illustrations, au moins, sinon du texte, il y a le boucher avec son béret, l'hôtesse de l'air d'Air France, etc. Tout ça qui caractérise, au fond, les Trente Glorieuses et qui, auprès du public américain, a fait, tilt, puisqu'on y a vu l'exemple de la Frenchness. Donc, et Bourdieu disait, pourquoi mon livre est universel ? Il faisait référence à deux personnes, Elias et le procès de civilisation, la société de cour française est la matrice de la théorie de la distinction, au fond, c'est son premier lieu d'émergence. Et deux, il faisait une référence à un témoignage oral d'Erving Goffman qui allait dans le même sens, le chic et le goût, c'est toujours le goût français. Donc, il existe depuis un siècle et demi en France un ensemble de réactivations et d'usages de l'œuvre de Comte qui permettent de dessiner les contours de ce qu'il est peut-être excessif. On n'a pas beaucoup parlé de tradition, comme une tradition intellectuelle. Il y a deux façons de penser l'héritage conscient. La première consiste à réinscrire Comte, comme le fait Donald Levin dans son classique « Visions of the Sociological Tradition », dans une tradition française, « The French Tradition », donc qui irait des débuts à aujourd'hui, entendu à la fois comme lignage intellectuel et aussi comme tradition narrative, comme manière de raconter l'histoire de la sociologie. Ce que nous faisons en ce moment, nous produisons un récit collectif de l'histoire de la sociologie en France. Et donc, selon Levin, ce récit, ce grand récit de la sociologie, c'est qu'il existe un cheminement vers l'approche positive, dont on peut retracer les étapes. L'histoire des premiers balbutiements d'un esprit sociologique positif est indissociablement celle de la démarcation entre les savoirs qu'il constitue, ou simplement qu'il esquisse, et les savoirs de sens commun. Cette coupure est contemporaine de la constitution de corps spécialisés de professionnels. Le récit positiviste, selon Levin, présente la caractéristique de dessiner une courbe ascendante et cumulative qui va d'un savoir chancelant et incertain aux certitudes d'une science robuste, bien évidemment que le mouvement ne soit pas nécessairement linéaire, puisqu'entre Durkheim et Bourdieu, il a toute l'histoire d'un recommencement, d'une reprise ab initio du geste fondateur. Ça, ce n'est pas Levin qui le dit, c'est moi. Alors, l'histoire disciplinaire est évidemment riche de péripéties, de sinuosités, éventuellement de régression, en tout cas de conjonctures diverses, d'occasions qui font les larrons, etc. Levin voit dans la reprise des idées de Comte, qui caractérise la théorie durkheimienne, la preuve suggestive de la vigueur des traditions nationales et de leur capacité à effacer les expressions idiosyncratiques. Evans Pritchard insistait déjà sur la continuité entre Durkheim et Comte. Si l'on prend au sérieux l'existence d'une tradition française, on peut ajouter que Durkheim en est autant le producteur que l'héritier. Le travail propre de production de la tradition, qui est plutôt mieux qu'invention de la tradition, apparaît à travers ses travaux sur l'histoire de la pensée française, ses célébrations de Montesquieu, de Saint-Simon, de Rousseau et de Comte. Alors, il faut prendre en compte, je crois, au pied de la lettre, l'affirmation durkheimienne selon laquelle la sociologie est pour l'essentiel une science française. Alors, s'agit-il de l'expression d'une sorte de chauvinisme épistémologique ou de l'esquisse d'une sociologie comparée des contenus culturels ? Je ne répondrai pas immédiatement. En tout cas, s'y exprime une forme de certitudo sui, pour rappeler une formule chère à Pierre Bourdieu, de la science en marche. Et cette certitudo sui est commune à Bourdieu, à Durkheim et à Bourdieu. Donc, il existe depuis un siècle et demi en France un ensemble de réactivations de l'œuvre de Comte, qui se situe bien sûr dans le prolongement d'inscription de Comte dans la philosophie institutionnelle opérée au début de la Troisième République. Je renvoie là à mes premiers travaux. Et donc, cette lignée, Bruno Carcenti a évoqué hier ce que j'appelle ici le primat de la pédagogie et la revendication du caractère nécessaire de l'inscription des savoirs dans la cité. On pourrait parler de la continuité d'un style intellectuel à travers des programmes de recherche ou des manifestes idéologiques très divers. Lorsque Michel Foucault, dans le dernier texte qu'il a écrit, avant de mourir, « La vie, l'expérience et la science », place Auguste Comte à la source de la lignée de la philosophie du concept, dans laquelle il intègre, je vous le rappelle, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron et Robert Castel, il désigne sans doute cavalièrement cette continuité. Une telle lignée implique un alliage original de l'épistémologie et de l'histoire, comme l'a montré pertinemment Johanna Heilbronn dans son livre « Sur le développement de la théorie sociale, The Rise of Social Theory ». Je suis moins d'accord avec Heilbronn lorsqu'il oppose de manière très mécanique des chercheurs et des enseignants ou des bureaucrates, des autonomes et des hétéronomes dans son travail sur la sociologie française. Je me distingue donc un petit peu là de mon camarade François Héran. L'histoire des sciences à la française a d'ailleurs développé une belle érudition à propos de Comte, donc Anguilhem est un exemple frappant, qui tranche avec le désintérêt relatif qui a entouré son œuvre au cours du XXe siècle. Au premier rang des éléments de cette tradition latente, il faut évoquer la préoccupation pour l'historicité des formes de connaissances et de leur mode d'inscription sociale et politique. Sous ce rapport, les polémiques de Comte avec Maine de Biran à propos des mérites de l'introspection, que l'auteur du cours considérait avec la plus grande sévérité, constitue bien l'assise de cette scène fondatrice que Foucault constitue à gros traits, à partir de laquelle on peut reconstruire tout un répertoire argumentatif, d'un côté la philosophie du sujet, d'un autre côté la philosophie du concept. On n'aurait aucun mal à en trouver de nombreuses illustrations contemporaines dans les polémiques philosophiques et sociologiques. L'ambition de constituer la sociologie par la capacité qu'elle a de fournir un point de vue unitaire sur la genèse et les formes d'usage sociaux des savoirs, comme une théorie générale de la connaissance, est contenue dans l'œuvre de Comte. On en trouve l'écho dans la proposition que Durkheim avait faite à propos de la relève de la philosophie par la sociologie. Dès la division du travail social, donc dès sa thèse, publiée en 1993, il avait soutenu qu'à mesure que le travail intellectuelle se divise, la philosophie devient de plus en plus incapable d'assurer l'unité de la science. La philosophie étant comme la conscience collective de la science, le rôle de la conscience collective diminue à mesure que le travail se divise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la crise ? Il faut trouver une alternative. Il faut choisir un savoir qu'il puisse maîtriser, que l'on puisse maîtriser, et qui soit simultanément une science de la totalité. Et donc, la sociologie semble aux yeux de Durkheim la seule à remplir ces conditions. Elle est suffisamment restreinte pour être maîtrisée par un seul esprit. Et elle est une discipline de la totalité puisqu'elle recouvre, par définition, l'ensemble des faits de civilisation. C'est donc ce que j'appelle, de manière peut-être risquée, une totalité portable. Vous avez un individu qui a une prise sur la totalité par le fait qu'il est sociologue. La critique de l'enseignement de la philosophie que Durkheim développe comme tous les modernistes républicains en 1895 dans un article fameux de la Revue philosophique, qui lui vaudra beaucoup d'ennemis, est très proche de celle que Bourdieu adressera 80 ans plus tard à la tradition lettrée, qui occupe tout un volume de la revue qu'il vient de créer en 1975, Actes de la recherche en sciences sociales, et de manière, que je dirais franchement obsessionnelle, à l'intellectualisme scolastique dans les méditations pascaliennes. Plus de 100 pages lui sont consacrées. Alors, la revendication d'une efficace propre de l'intervention intellectuelle entendue comme pédagogie de la science est centrale dans l'œuvre de Comte et on peut voir sa postérité. L'action pédagogique est centrale dans la cité et ce thème est traité sous des formes différentes à la fois chez Durkheim et chez Bourdieu. C'est à travers la vulgarisation des connaissances scientifiques que peuvent se diffuser au sein de l'ensemble de la société les nouveaux principes directeurs de l'organisation collective. La connaissance historique vulgarisée avait, selon Comte, la propriété de, je cite, « développer spontanément le sentiment social ». Alors j'ai essayé, dans le temps, de montrer, à propos de la Troisième République, l'importance de cette adhésion non interrogée à la croyance selon laquelle l'activité intellectuelle est capable, sans médiation, par sa seule présence, c'est ce que François m'a reproché avec cette histoire d'autoprésentation, mais je maintiens ce que je disais, et qui fait, disons, le socle commun entre sociologues durkheimiens et philosophes rationalistes qui partagent, à travers les usages intensifs qu'ils font du terme de morale, l'exigence, Thomas Hirsch en parlait, de l'efficacité sociale du travail intellectuel. La figure de Pierre Bourdieu politique dans l'espace public, aussi étrange qu'elle ait pu apparaître à certains de ses vieux lecteurs, dont moi-même, semble aussi pouvoir être pensée dans la continuité de certaines articulations. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre et qui a fait l'objet de nombreuses discussions. La légitimité de l'intervention du sociologue dans la cité est garantie par une problématique du transfert de connaissances. La caractéristique commune de ces formes d'intervention est de reposer sur la croyance en la possibilité d'une efficacité en soi de la parole professorale, impliquant une sorte de court-circuit du politique qu'on a vu esquisser chez Carcenti et qui me paraît être aussi une caractéristique de l'œuvre de Bourdieu. Et voilà un petit peu pour le cadre, disons, cette idée de tradition que je prends évidemment avec une certaine distance. Deuxième partie, je serai plus rapide, une réappropriation stratégique. Je serai plus rapide parce qu'un certain nombre d'éléments que je m'apprêtais à dire ont été évoqués par mes collègues avant moi, et ce qui prouve en tout cas la qualité de la préparation de ce colloque, le focus au fond, du fait que vous avez amené à travailler de manière très intense et très dense sur des objets proches. Alors, au moment où Bourdieu entre dans la carrière, Durkheim est, on l'a dit, décrié en philosophie comme en sociologie, quoique pour des raisons sensiblement différentes. L'homme que l'aspirant philosophe, comme il se nomme lui-même dans le recueil sur la philosophie des années 50, s'est choisi comme mentor Raymond Aron, et comme on l'a vu, Raymond Aron considère le fondateur de la sociologie française avec beaucoup de circonscription. Le chapitre qu'il lui consacre dans les étapes de la pensée sociologique dissimule assez mal son manque de sympathie à l'égard de Durkheim. Alors, là, j'avais la citation que Pierre Birnbaum a apportée. Complète la citation parce que c'est intéressant, j'avais prévu plus long. Donc, entre les deux, ni la division du travail, ni le suicide, ni les formes élémentaires de la vie religieuse ne touchaient mon cœur. Simples objets d'études sur lesquels je dissertais en cas de besoin, un bon agrégé de philosophie de mon temps dissertait sur n'importe quoi. Fin de citation, page 69 de ses mémoires. Ça a bien changé, vous êtes d'accord? On pourrait multiplier les citations. Au principe du jugement d'Aron, on trouve le scepticisme sur l'idée même de société comme ensemble cohérent et dynamique. À l'ennui suscité par le durkheimisme, Aron, Pierre Birnbaum l'a dit, opposa sa découverte de la sociologie allemande et de Max Weber en particulier. Son petit camarade Sartre, qui avait une lucidité beaucoup plus limitée sur ce qui passait en Allemagne, bien qu'il y ait passé comme Aron un certain temps, était pour une fois pleinement d'accord avec lui. Il proclamait en 1943, mais là c'est Giovanni qui a fait la citation, en s'opposant à Georges Bataille, hein, ça, s'il faut, je le recontextualise un peu, la sociologie de Durkheim est morte. Si, évidemment, comme en général on laisse les morts enterrer les morts, là, ça prouve, si Sartre dit ça, ça prouve que Durkheim n'est pas mort, évidemment. Alors, l'entre-deux-guerres, en dépit de ce que nous avons dit au cours de ces deux jours, n'offre guère sans doute d'occasion de s'enthousiasmer, non pas pour les grands savants dont nous avons parlé, mais pour l'école sociologique durkheimienne. Les fondateurs des annales ne sont pas en reste dans cette ironie mordante. Alors là, enfin, une citation que personne n'a faite, donc je la lance. Le 10 mai 1933, Lucien Febvre, de cette maison, écrit à Marc Bloch. Je cite, « Récrit à Anfou, comme convenu, transmis le manuscrit à la maison. Idem le Gernet, auteur de cette cochonnerie chez Baer. » Style Mauss. Entre parenthèses, vous vous seriez bien divertis de voir ma tête hier soir dans la salle du Conseil supérieur, en commission, présidée par Lévi Brulle, qui est bien vieillard, et composée des quatre docteurs de l'école. Je veux dire Bouglet, hein, Le Vrai Connaît, de Simion et Mauss, avec en face quatre primaires directeurs d'école normale pour l'examen des programmes de sociologie. Il fallait un historien, on m'a pris. C'était bien divertissant pour quelqu'un que l'histoire religieuse intéresse. Fin de citation. Alors évidemment, Le Vrai Connaît, vous avez compris, faut pas des, c'est Faux Connaît. On retrouvera la même méfiance à l'égard de Durkheim, de la part de Fernand Braudel, lorsqu'il fustigea sa simplicité dure et linéaire. Dans les années d'après-guerre, la reconstitution d'un espace de recherche sociologique, principalement au CNRS, s'appuiera sur l'antidurkheimisme primaire de Jean Stötzel, qui fera de l'auteur des formes élémentaires de la vie religieuse un épouvantail métaphysique et préscientifique pour les contraster avec les méthodes de la sociologie états-unienne dominante et qu'il imposera à l'IFOP, comme on l'a dit aussi hier. Pour ce qui est de la philosophie, Durkheim n'est guère mieux loti. Quand j'étais agrégatif de philosophie, j'avais été frappé par une phrase dans un rapport de jury de 1973. Je la cite en partie. Durkheim, dont l'argumentation peut être démontée en trois lignes. Michel Foucault suivra cette ligne. En se situant dans le mainstream de la philosophie universitaire française, réunissant curieusement le vieux spiritualisme Lachelier et l'existentialisme sartrien. Il ne pense pas qu'on puisse faire quelque usage de Durkheim. Je cite « Et le vieux réalisme à la Durkheim, pensant la société comme une substance qui s'oppose à l'individu qui, lui aussi, est une sorte de substance intégrée à l'intérieur de la société, ce vieux réalisme me paraît impensable. » Fin de citation. Répond-il, devinez à qui, à Alain Badiou, dans un entretien réalisé en 1965 par la télévision scolaire. Durkheim se trouve à plusieurs reprises violemment disqualifié et quelquefois caricaturé dans le reste de l'œuvre de Foucault. Cette caricature est assez fréquente dans l'enseignement philosophique de l'époque, c'est-à-dire des années 60. Dans une conférence faite à Tokyo, alors là, c'est en 70, Foucault se distingue encore très fortement de Durkheim lorsqu'il oppose sa propre méthode, qui consiste à chercher l'intéressant du côté de ce qui, dans une société, dans un système de pensée, est rejeté et exclu. C'est ce qu'il fait, alors que le sociologue, dit-il, traitant une interdiction comme l'inceste, se demandait quel était le système de valeurs affirmé par la société au moment où elle refusait l'inceste. Durkheim présupposait en effet l'homogénéité, le caractère sacré du corps social, affirmation que Foucault dit complètement étrangère à ses préoccupations. L'œuvre de Durkheim n'a plus de potentialité. Foucault se situe explicitement dans une tradition philosophique française qui fait l'auteur des formes élémentaires une vieillerie à mettre définitivement au placard et dont la survie, comme punching ball, on dirait, est uniquement lié au fait qu'il incarne tout ce qu'il ne faut pas penser. D'une manière générale, bien qu'il se démarque soigneusement de Weber lorsqu'on évoque de possibles proximités avec son travail, Landy a écrit, il le crédite à tel ou tel moment, surtout lorsqu'il évoque la dimension d'une histoire de la raison qui se déploierait dans la philosophie allemande de Max Weber jusqu'à la théorie critique. Durkheim, lui, est tout entier dans le discrédit, bien qu'on ait tiré, quelquefois, une série de rapprochements qui me semblent hasardeux entre les deux auteurs à la suite d'une citation favorable, Anna Pax, dans « Surveiller et punir ». Les premiers travaux de Bourdieu, cela n'étonnera pas. Bourdieu est un autodidacte en sociologie, donc, comme je dis dans mon livre, il prend l'occasion aux cheveux, il bricole, il fréquente des statisticiens, des bibliothèques, il se fait envoyer des livres en Algérie, etc. Et les premiers travaux de Bourdieu sur l'Algérie, précisément, évoquent beaucoup moins Durkheim que Weber, si on fait un constat de citation. Le meilleur indicateur, donc, à ce sujet, est l'ensemble de textes consacrés à l'Algérie, alors que Bourdieu cherche encore sa voie dans les sciences sociales et ne s'est pas encore pourvu de ce que Aron appellera son propre système. Weber y est déjà incontestablement plus présent. Les textes sur les relations des sociétés traditionnelles avec le temps et sur les formes de conduite économique sont très largement nourris, même si c'est à distance, de Max Weber. Les références à Durkheim sont plus rares et plus convenues. On voit clairement que les concepts durkheimiens ne font pas l'objet d'une mobilisation véritable, à l'exception de celui de prénotion, dont l'usage est plutôt limité. Bourdieu déclare dans « Choses dites » avoir fait en 1958-59 un cours sur Durkheim et Saussure à Alger, dans lequel, je le cite, il essayait de dégager les limites des tentatives pour produire des théories pures. Fin de citation. Son approche de l'auteur des formes élémentaires s'inscrit dans une préoccupation précoce pour le structuralisme, et il est clair que la lecture de Lévi-Strauss va être décisive pour une forme de ce que j'appellerais une resocialisation durkheimienne de Bourdieu. Et le fil conducteur ici, bien des intervenants à ce colloque l'ont remarqué, de façon très différente, et d'ailleurs, qui devrait faire l'objet de longues discussions, parce qu'elles me semblent pas tout à fait coïncider, c'est la question du mémoire de 1903 sur les formes primitives de classification, qui constitue incontestablement ici un lieu de rencontre, un fil conducteur pour la réappropriation, et ces usages quasiment fétichistes sont tout à fait intéressants sous ce rapport. Moss constitue sous ce rapport également une médiation essentielle avec Durkheim. Bourdieu y voit comme une matrice de nombre de ses propres travaux. dans ce texte sur les formes primitives de classification, en particulier celui qui a pour titre les catégories de l'entendement professoral. Et ici, on m'a parlé de quelqu'un qui travaille sur les néo-kantismes en France et en Allemagne. Je crois qu'ici, effectivement, la relation à Kant, qui a été souvent évoquée, doit faire l'objet d'une analyse plus approfondie dans ce sociocentrisme qui prend à la fois Kant à revers, mais qui le maintient dans une large mesure. Alors, Bourdieu, qui dit toujours, hein, c'est un peu naïf, mais bon, c'est comme ça qu'il se présente, qu'il est quand même beaucoup plus fort que les autres, et beaucoup plus fort de Durkheim, il dit que moi, je suis capable, j'ai les moyens d'enquêter sur mes propres catégories. Ce qui me dissocie de l'objectivisme de Durkheim, aussi bien que de l'objectivisme de Lévi-Strauss. Le remploi qu'il fait de la notion d'habitus, laquelle sous diverses formes, exis, ethos notamment, comme l'a montré dans un texte qui est devenu un classique, François Errand, est présente dans la tradition philosophique occidentale, doit probablement plus à Husserl et à Merleau-Ponty qu'à Durkheim, tant la question de la présence active du corps socialisé y est présente. La dynamique théorique de l'œuvre de Bourdieu s'inscrit précisément au croisement de la phénoménologie, telle qu'il l'a saisie à travers ses lectures de Husserl et surtout de Merleau-Ponty, et de la tradition sociologique et anthropologique française. Les lectures philosophiques récentes de l'œuvre de Bourdieu tentent à majorer les premières, pour des raisons évidentes de formation et de lecture des philosophes. Je pense au livre très intéressant de Laurent Perrault sur Bourdieu et la phénoménologie. Donc, il ne faut pas sous-estimer le deuxième élément qui donne le sens de l'ensemble de l'entreprise et constitue une vision de l'habitus sans doute moins inventive que ne le pensent les lecteurs philosophes. Il n'est pas étonnant que Bourdieu rencontre Durkheim lorsqu'il entreprend, en collaboration avec Jean-Claude Passeron, d'analyser le système d'enseignement français à partir d'une théorie générale de l'inculcation qui fait de la production des structures mentales l'effet de l'action continue des systèmes d'enseignement de ce que Durkheim appelait la socialisation méthodique de la jeune génération. À ce point, Bourdieu se situe explicitement dans la postérité de Durkheim lorsqu'il tentait de faire une sociologie des structures de l'esprit telle qu'elle apparaît au cœur des formes élémentaires dans le travail sur les catégories, comme ce retournement sociologique de la question kantienne. Il y ajoutait un élément que Durkheim n'avait absolument pas perçu, celui de la domination et de la violence sociale qu'exprimait le système, y compris que lorsqu'il entendait lutter au nom de l'égalitarisme républicain contre les effets de ce type, violence telle qu'elle pouvait s'exprimer dans le monde social en général. Bourdieu retournait d'une certaine façon Durkheim contre lui-même en faisant exploser la notion de société comme ensemble unifié. Ce n'était pas seulement dans des situations de crise ou des situations pathologiques comme Bruno Carcenti les a évoquées hier, que le système ne fonctionnait pas, bien que Bourdieu et Passeron aient repris. Alors je pense que leurs jeunes lecteurs ne savent pas d'où ça vient. Ça vient de Saint-Simon, mais ça a été largement retravaillé par Auguste Comte, la distinction entre période organique et période critique qui permet à Bourdieu et Passeron de penser la crise. Mais ce que Bourdieu reproche à Durkheim, c'est d'avoir, bien qu'il ait insisté sur la contrainte, ignoré le Herrschaft, la domination, qui viennent rendre, disons, qui transforment radicalement le fonctionnement d'un système de socialisation. Durkheim se trouvait ainsi remis à sa place. Ce qu'il voyait, l'homologie entre des formes d'inculcation et des logiques de pensée, se trouvait oblitérée parce que son concept de société l'empêchait de voir la structuration de la société en classe et l'omniprésence du pouvoir. Bourdieu note en effet les schèmes classificatoires, les systèmes de classement, les oppositions fondamentales de la pensée, masculin-féminin, droite-gauche, est-ouest, mais aussi théorie pratique, sont des catégories politiques. La théorie critique de la culture conduit très naturellement à une théorie politique. Fin de citation. Durkheim ne pouvait exister que si on lui adjoignait, Pierre-Michel m'a enlevé le pitch là, mais que si on lui adjoignait Marx et surtout Weber. La reproduction, 1970, imposera ce trio, ou cette triade pour parler comme Pierre-Michel Menger, pour l'analyse du système d'enseignement, même si l'on peut raisonnablement penser que Marx ne constitue pas l'acteur majeur de ce ménage à trois conceptuel comme j'ai essayé de le montrer après Michael Bouravoy et Mathieu Dessant. Bourdieu parle évidemment un tout autre langage, celui de l'espace des positions, qui n'est pas celui de Marx. La tâche du sociologue va être de construire un espace fictif, que j'appelle le système MDW, Marx, Durkheim, Weber, et cet espace est celui des oppositions pertinentes à un moment donné du développement de la science. La dimension réflexive de l'entreprise de Bourdieu trouve ici sa limite. L'existence de ces trois hommes comme repères ne fait pas l'objet de discussion. Elle est prise comme allant de soi, alors qu'il s'agit effectivement de ce que j'appellerais un artefact scolastique. Marx n'a jamais imaginé figurer dans un canon sociologique. Randy Collins a montré que pendant très longtemps, dans la sociologie états-unienne, aucun de ses auteurs n'avait eu droit de citer. Le trio MDW est évidemment plus plausible que d'autres. Mais en tout cas, Bourdieu va se constituer un espace théorique mobile qui lui semble, pour des raisons bien compréhensibles et qui sont aussi des raisons liées aux idéologies du temps, tout à fait naturelles, alors qu'il est produit d'une conjoncture, bien sûr, qui est celle de la France de la fin des années 60. Néanmoins, ce système MDW est une manière de faire de la sociologie de la, sociologie. Bourdieu en fait un puissant, ou entend en faire un puissant outil réflexif. Loin de faire de Weber l'anti-Marx, comme dans les manuels de sociologie, la sociologie doit permettre à l'un de dire la vérité de l'autre, dans un jeu de miroir que Bourdieu a amplement décrit. Les antagonismes que l'institution scolaire produit et stabilise dans un ensemble de catégories qui se perpétuent ne doivent pas menacer l'unité de la sociologie, idée que Bourdieu partage avec Durkheim. Il partage aussi, évidemment, l'idée que la sociologie doit être, à terme, hégémonique. Pierre-Michel Minguet en a parlé. Les limites de chaque pensée tiennent au fait qu'elles sont situées. Ainsi, Weber a pu voir ce que Marx ne voyait pas, mais il n'a pu le voir que parce que Marx avait vu ce qu'il avait vu. On pourrait dire aussi, le jeune Bourdieu, encore nourri de Leibniz, qui a un peu disparu au cours du temps, qu'au fond, ces monades théoriques s'entre-expriment. Les antagonismes sont voués au dépassement et à la synthèse, qui est d'ailleurs à la charge de Bourdieu, lui seul, ou sa théorie générale, mais je pense qu'ici, c'est Bourdieu seul, peut exprimer la multiplicité des perspectives sur le monde social. On peut penser avec un penseur contre un autre penseur, et avec et contre un penseur. Alors, Bourdieu nous dit « Althusser est pour Marx, mais moi, je suis pour et contre Marx ». Et on peut penser avec Marx et Durkheim contre Weber, et réciproquement. Hein ? Et ce jeu, évidemment, est le jeu qui permet la réflexivité. C'est donc grâce à Weber que Bourdieu va pouvoir se déprendre de la passion objectiviste qui réunit, selon lui, Marx et Durkheim. Mais ce sont les objectivistes, alors je laisse à Bourdieu le monopole de ces catégories qui m'ont toujours semblé discutables, les objectivistes vont être mis à contribution pour invalider toutes les visions dites subjectivistes du monde social. Et Bourdieu a fustigé sous ce rapport, par exemple, l'ethnométhodologie, qui est tout sauf un subjectivisme. Ainsi qu'en témoignent les travaux d'Anne Rawls récents sur les formes élémentaires. Aussi, Bourdieu ne fut pas durkheimien, mais il sut utiliser son ancêtre contre ses rivaux et contre ses propres passions objectivistes, comme un penchant naturel du savant. Durkheim avait déjà défini, je vous l'ai dit, dans la première partie, la position du sociologue comme celle du point de vue à partir duquel on peut saisir tous les points de vue particuliers. Hein, avec un tout petit truc, je vois tout. Hein. C'est ma boule sociologique. Eh ben, y a tout dans la boule, et en même temps, c'est une petite boule. C'est dans le cours sur l'État que, et j'en termine par là, les proximités entre Bourdieu et Durkheim sont plus remarquables. Alors on m'a déjà fait l'objection, tu ne lis Bourdieu que d'un côté. Parce qu'évidemment, Bourdieu, aussi, en maître de la rhétorique savante, se fait fort d'intégrer toutes les positions. Donc son cours sur l'État, il le considère aussi comme une vaste entreprise de déconstruction de l'État. Il s'agit de chasser, en gros, l'État de nos têtes, et l'État y est entré il y a très très longtemps. Mais en même temps, et c'est là-dessus que je terminerai, parce que c'est un écho, je pense, assez puissant, le cours sur l'État, alors dont on a dit qu'il n'était pas un des meilleurs cours de Bourdieu, mais en tout cas, moi je le prends comme un indicateur. Il est l'occasion d'une comparaison constante entre la position de Bourdieu, la position de l'auteur, et celle de Durkheim pour ce qui est de leur relation à l'État. Il n'est pas indifférent que Bourdieu commence son cours par une référence à l'auteur des formes élémentaires de la vie religieuse. Alors bien sûr, Durkheim a parlé d'État, les leçons de sociologie publiées à Istanbul en 1938 en témoignent, mais la publication à Istanbul posthume témoigne aussi du caractère à la fois périphérique et incomplet de ces textes. Donc, cette référence renvoie à la distinction qui est faite entre intégration logique et intégration morale. Et je cite Bourdieu, « L'État, tel qu'on l'entend d'ordinaire, est le fondement de l'intégration logique et de l'intégration morale du monde social. » Fin de citation. Si l'auteur du cours sur l'État ne s'arrête pas à cette définition, il faut être honnête, il n'en fait pas moins le point de départ de son investigation en tant qu'elle fixe le consensus fondamental qui est la condition des conflits qui se développent dans le monde social. Bourdieu s'emploie tout au long de sa démonstration à ouvrir l'écart, bien sûr, entre le sociologue de service public et l'État. Il y voit même une difficulté inhérente à la construction de cet objet particulier. Il rend pourtant hommage au sociologue d'État que fut Durkheim, et il met souvent ses pas dans les siens en réactivant sa théorie de la religion et sa conception des formes primitives de classement pour construire son enquête sur la genèse des formes étatiques. Je le cite encore, un très beau texte de Durkheim identifie le sociologue à l'État. Il dit que, au fond, le sociologue fait ce que fait la connaissance du second genre selon Spinoza. Il produit une vérité débarrassée de la privation liée à une particularité. Le sociologue, disait Durkheim, est celui qui est capable de se situer en ce point, d'où les vérités particulières apparaissent comme particulières, et il est donc capable d'énoncer la vérité des vérités particulières, qui est la vérité tout court. Ce faisant, le sociologue est inévitablement proche de l'État, et évidemment, cette vision de Durkheim selon le sociologue doit se considérer spontanément comme un agent de l'État est tout à fait centrale. Alors, là, on mesure sans peine, à travers la proximité presque affective avec Durkheim, la distance qui sépare Bourdieu des théories marxistes de l'État. S'il est impossible, s'il serait funeste, parce que dangereux pour une sociologie critique, de reproduire à l'identique le geste durkheimien, l'utilité de son travail, y compris lorsqu'il ne parle pas de l'État, est essentielle. L'État est aussi l'incarnation du collectif. Il peut être défini, selon Bourdieu, comme un métachamp qui englobe tous les champs. Une telle analogie est incontestablement liée à l'ancienneté et à la centralité de l'État en France. Un sociologue des États-Unis aurait probablement un point de vue différent. Pour Bourdieu, les sciences sociales ont partie liée avec le welfare state. Si le sociologue ne se considère plus à la fin du XXe siècle comme un agent de l'État seul capable d'exprimer le point de vue de l'État, très souvent pensé par Bourdieu sur le modèle du point géométral de Leibniz, le point de vue de tous les points de vue, il est l'héritier direct, nous dit-il, des luttes qui ont abouti à l'extension de sa main gauche, la main gauche de l'État, dont Bourdieu se désespère qu'elle soit en train d'être coupée, et en particulier par de mauvais sociologues. La sociologie est née de l'État et elle a participé elle-même à la constitution de l'État. L'ensemble des sciences sociales, personne ne le nie, a joué un rôle considérable dans la préparation, disons, d'un espace de possibilités pour qu'advienne l'État-providence. La sociologie est partie liée avec l'entreprise de socialisation des risques, avec la constitution des problèmes comme problèmes publics, sur laquelle une réponse de la puissance publique est attendue. La sociologie a eu une importance cruciale dans le fait que les femmes et les hommes ont cessé d'être considérés comme les responsables de leur propre malheur, de leur mauvaise santé ou de leur pauvreté. Donc, des trois pères fondateurs, j'ai fait des comptes, Durkheim est le plus cité dans Sur l'État. Là où l'on aurait pu attendre Weber, qui était évidemment présent avec des concepts de domination et de légitimité, c'est plutôt l'auteur des leçons de sociologie qui s'imposent. Le cours est d'ailleurs le plus anti-marxiste des ouvrages de Bourdieu. On peut voir dans ce retour à Durkheim la préoccupation constante de Bourdieu pour l'intérêt public, tel qu'il est défini par les catégories de l'intervention publique. Ce qui inquiète le sociologue à la fin de sa longue enquête historique, qui est très riche de références sur la genèse de l'État, c'est la rapide déconstruction du socle sur lequel s'était bâti l'édifice républicain, qui est bien qu'il ne le dise jamais puisqu'il se considère lui-même comme un miraculé du système, celui qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, au cœur de l'État ici, là, l'État universitaire français, quintessence du raffinement intellectuel, de la puissance publique dans la longue durée. Le monde que décrit le sociologue critique est un monde de décombres. Il est difficile d'y reconnaître les vestiges de ce que fut le long combat pour l'intérêt public dans l'histoire de ce pays. C'est un peu comme ce que j'avais écrit à propos des règles de l'art. Vous avez des siècles d'autonomisation de l'artiste, etc. Et puis, toc, d'un coup, de Bernard-Henri Lévy arrive et pop, tout est foutu. Ce côté vraiment angoissé de la fragilité de la longue durée en dépit des apparences. Ce qui est détruit en premier lieu, dit Bourdieu, c'est la morale collective, la morale publique, une philosophie de la responsabilité collective. Et là, vous entendez des échos durkheimiens. La fidélité au lexique durkheimien est frappante. L'association entre la sociologie et l'intérêt public est prise comme allant de soi. La tristesse de la conclusion, moi qui m'a vraiment ému, alors on me dit que Bourdieu était très gai à la fin de sa vie, etc., bon, n'est pas feinte. Le cours s'achève sur le paradoxe que constituent les méchants. Les sociologues qui contribuent consciemment au délitement de la puissance publique, alors que leur discipline est par définition du côté du collectif. Par définition, certes, mais si, uniquement si l'on se situe dans un paradigme de type durkheimien. Un individualisme méthodologique ou un théoricien du choix rationnel ne serait nullement prédisposé à associer leur travail à une définition de la réalité des collectifs, qui est le présupposé. Peu importe à Bourdieu, la coopération de certains sociologues avec le démontage de deux siècles de constitution d'un espace de pensée collectif lui apparaît comme une tradition. Je le cite pour finir. « Il y a des gens, conclut tristement le maître du Collège de France, qui réalisent ce tour de force de faire une sociologie en contradiction avec les postulats centraux de la discipline, sociologie qui est du côté des démolisseurs, peut-on dire, de tout ce qui était associé au public, au service public, à cette forme d'universalisation par le public. » Fin de citation. Bourdieu rejoint ici Durkheim, mais sur un mode tragique.